Et voici le journal Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous irons au Venezuela où, pour tenter de reprendre au moins la main sur sa monnaie, le président Maduro a annoncé hier une nouvelle dévaluation. Pendant ce temps-là, les pressions s'intensifient de toutes parts pour qu'il quitte le pouvoir. La population, elle, est extrêmement divisée. Nous irons à Caracas au début de ce journal. En France, l'actualité est sociale avec cette décision de la direction du travail de Nouvelle-Aquitaine hier en refusant le PSE de Ford pour son usine de Blanquefort en Gironde. L'administration française laisse encore une possibilité pour que le site soit repris. Et puis le parti Les Républicains a sa tête de liste pour les élections européennes. François-Xavier Bellamy, proche du mouvement Sens Commun, un jeune professeur de philosophie de 33 ans qui divise aussi dans son camp, nous dira Rosalie Lafarge. Il est pressé de toutes parts par les pays étrangers de plus en plus nombreux à reconnaître Juan Guaido comme le nouveau président du Venezuela. En interne, avec les appels à la défection, à l'armée qui s'intensifient. Et puis économiquement, avec la pression de Washington, notamment sur le joyau de la couronne vénézuélienne, le pétrole. Alors que l'opposition prépare deux nouvelles manifestations, demain et samedi, la session du Parlement qui se réunit aujourd'hui doit évoquer la transition démocratique. Bref, Nicolas Maduro est acculé, pendant que les Vénézuéliens restent, eux, profondément divisés, parfois même au cœur des familles. Écoutez ce reportage à Caracas de notre envoyé spécial, Sacha Colman.
Voilà. Le nom du quartier fait presque rêver, San Agustín del Sur, et pourtant la favela est surnommée le Petit Bronx à Caracas. C'est là que vit Eliezer Diaz.
Soy chavista madurista.
Eliezer Diaz a Chavez et Maduro tatoués sur le cœur, celui qui bat pour la révolution. Alors quand on lui parle de l'opposition, son sang ne fait qu'un tour.
Mais la tristesse.
Il y a de la tristesse.
L'opposition.
L'opposition ne nous aime pas.
No nos quiere,
ils nous détestent et ils sont remplis de haine.
L'opposition,
l'opposition veut que l'on s'entretue.
Que hay una guerra civil.
Veut la guerre civile.
Eliezer Diaz a un problème de taille. Il s'appelle Tor Rulia et c'est son petit-fils.
Si, no tocamos la politique,
si on ne parle pas de politique, bien, très bien. Mais si on en parle, on se bat.
Et son petit-fils d'enchaîner avec la liste des griefs qu'il reproche au président Maduro. Et la liste est longue.
Je lui reproche la famine, la répression, les morts. Je reproche aussi la faillite du pays, la ruine des réserves monétaires du Venezuela. Et toutes les douleurs infligées aux gens qui sont sortis pour manifester.
Fossé de génération, mais pas du cœur, le débat s'achèvera par un énorme câlin entre petit-fils et grand-père.
Nous nous aimons.
Le Venezuela qui vit également un désastre économique. Juan Guaido a annoncé qu'il prenait le contrôle des actifs du pays à l'étranger pour éviter, dit-il, que le chef de l'État ne les dilapide au cas où il quitterait la présidence. Pour tenter de garder tout de même un peu le contrôle de sa monnaie, notamment, Nicolas Maduro a décidé hier d'une nouvelle dévaluation. Le bolivar a donc perdu encore 35% de sa valeur par rapport au dollar. Il rattrape ainsi le taux de change parallèle qui se pratique sur le terrain. Les précisions du correspondant de France Culture sur place, Benjamin Delisle.
Ces derniers mois, changer de l'argent au marché noir était jusqu'à 30 fois plus avantageux à cause du très strict contrôle des changes et des devises en vigueur au Venezuela. Ce contrôle, installé en 2003 en plein boom pétrolier, visait à rendre plus complexe l'accès au dollar pour les particuliers et les entreprises, afin qu'ils préfèrent utiliser le bolivar. Mais avec la crise économique et l'hyperinflation, tous les Vénézuéliens se sont tournés vers le marché noir pour se débarrasser de leur bolivar, dont la valeur se dépréciait chaque jour, et récupérer des dollars plus stables. Ce système de contrôle contesté a donc enfin sauté, mais trop tard, à en croire une série de tweets de l'économiste Asdrubal Oliveros du cabinet EcoAnalytica. L'inflation est stratosphérique, 10 millions de pourcents selon les FMI en 2019, donc les Vénézuéliens n'ont plus aucune confiance dans leur monnaie. Et sans cette confiance, le bolivar va continuer d'être échangé contre des dollars et l'inflation va repartir de plus belle.
Enfin, côté diplomatique, le Canada accueillera lundi prochain à Ottawa une réunion d'urgence du groupe de Lima avec une dizaine de pays d'Amérique latine afin d'étudier les mesures pour, je cite, soutenir Juan Guaido et le peuple vénézuélien. Elle a tenté un coup de poker. Theresa May a proposé hier aux députés de son camp de soutenir d'une seule voix un amendement sur le backstop, le maintien de l'Irlande dans l'union douanière. S'ils le font, elle ira plaider à nouveau à Bruxelles des concessions sur l'accord de Brexit. C'est donc aujourd'hui encore une journée de tous les dangers pour la première ministre britannique qui revient ce soir devant le Parlement. Idlib, dernier bastion des rebelles modérés de Syrie, 3 millions de civils syriens se sont réfugiés dans cette province, protégés par un accord conclu entre la Turquie et les Russes afin d'éviter une offensive de Damas. La région est donc contrôlée par une coalition de groupes djihadistes et les conditions de vie sont catastrophiques pour les civils, car cette coalition au pouvoir à Idlib utilise les mêmes méthodes que le régime syrien, des méthodes ultra-violentes. L'ONG Human Rights Watch dénonce des pratiques de torture également. Les précisions depuis Beyrouth d'Aurélien Colli.
Un homme suspendu par les pieds pendant des heures, un autre enfermé dans un espace de la taille d'un cercueil, un troisième coincé à l'intérieur d'un pneu et battu sans interruption. Voilà le sort de plusieurs opposants à la coalition djihadiste qui contrôle depuis la mi-janvier la province d'Idlib avec sa propre administration civile. En réponse à n'importe quelle forme d'opposition, des gens sont torturés avec des méthodes similaires à celles du gouvernement syrien, explique Sarah Kayali de Human Rights Watch, qui dénonce aussi les enlèvements à domicile et à des checkpoints ou les disparitions de civils. La manière dont ils sont arrêtés ressemble aussi aux arrestations de masse et aux détentions arbitraires du gouvernement syrien, détaille l'ONG, avec la même tendance à viser les journalistes ou les militants qui alimentent médias et réseaux sociaux en images et en témoignages. Tout ce qui peut être communiqué au monde extérieur, que la coalition djihadiste ne peut pas contrôler, elle le réprime, dénonce encore Human Rights Watch, qui déplore désormais le sort des 3 millions de civils pris entre le marteau et l'enclume, entre la répression djihadiste et la menace d'une offensive de Damas.
8h07 sur France Culture, un répit avant peut-être une offre de reprise consolidée. Hier, la direction du travail de Nouvelle-Aquitaine a refusé le PSE de Ford pour son site de Blanquefort en Gironde, un plan social qui prévoyait la fermeture de l'usine d'ici septembre. Le projet du constructeur américain qui ne veut plus fabriquer ses boîtes de vitesse en Gironde n'est pas conforme, a jugé l'administration française. En prenant cette décision, elle laisse respirer un peu les 870 salariés du site. À Bordeaux, les précisions de Stéphanie Brossard de France Bleu Gironde.
Pour encore gagner du temps, ce nouveau répit est une chance supplémentaire pour que le projet de reprise de Punch se précise. Ce nouveau délai va permettre aux Belges de consolider son offre, de produire des lettres d'intention, des commandes de constructeurs d'ici à la mi-février, explique Vincent Alloz, un des délégués CGT. Ça va pousser Ford un peu plus loin dans ses retranchements et nous donner des semaines en plus pour tenter de sauver le site, ajoute Philippe Poutou. Le plan de reprise qui aurait permis de sauver 400 emplois avait été refusé le mois dernier par Ford, qui avait émis des doutes sur ce potentiel repreneur. Un plan toujours soutenu aujourd'hui par Bercy, qui s'était dit scandalisé par l'attitude du groupe américain le mois dernier et prêt à racheter l'usine provisoirement pour la rétrocéder à Punch. Ford a pris acte de la décision de la directe de ne pas homologuer son plan social ce lundi soir sans plus de commentaires.
Stéphanie Brossard, le parti Les Républicains a trouvé son champion pour les élections européennes. Son nom sera officialisé cet après-midi. Il s'agit de François-Xavier Bellamy, 33 ans, professeur de philosophie à Versailles. Dans le parti, ce choix divise. François-Xavier Bellamy est en effet réputé proche de Sens commun et de la Manif pour tous. Rosalie Lafarge.
Il est jeune, catholique et professeur de philosophie. Un profil de gendre idéal pour une partie de l'électorat de droite, mais une partie seulement. Les positions de François-Xavier Bellamy, comme ses derniers propos sur l'avortement, ne font pas l'unanimité dans son parti.
Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre tous d'accord pour se dire que ce devrait être un objectif de santé publique de faire baisser le nombre d'avortements en France et que notre politique de prévention aujourd'hui n'y parvient pas?
Proche de la Manif pour tous et de Sens commun, François-Xavier Bellamy a quand même des poids lourds du parti avec lui. Bruno Retailleau, Éric Ciotti ou Brice Hortefeux, pour ne citer que. Mais surtout, il ne faut pas le prendre tout seul, insiste l'ancien ministre Jean Leonetti, vice-président des LR. François-Xavier Bellamy est peut-être tête de liste, mais Laurent Wauquiez propose Agnès Evren en numéro 2 et Arnaud Danjean en numéro 3.
On se retrouve effectivement dans les différentes sensibilités qui existent au sein du LR. Agnès est proche de Valérie Pécresse et de François Baroin. Arnaud a fait la campagne pour Alain Juppé comme moi. Et puis on sait aussi que François-Xavier Bellamy, il incarne à la fois la jeunesse et une pensée. Bien sûr, il n'est pas tout à fait de ma sensibilité, mais il fait partie de cette diversité qu'il y a à l'intérieur de notre équipe.
Sauf que c'est quand même l'adjoint au maire de Versailles, le numéro 1, et ce n'est pas sans risque, d'après Nicolas Sauger, professeur à Sciences Po.
Choisir un professeur de philosophie basé à Versailles quand c'est la fronde des Gilets jaunes, non seulement à Paris mais en province, on voit qu'il y a un certain décalage dans le discours et dans la stratégie qui ne semble pas être une réponse directe à un certain nombre d'aspirations populaires pour l'instant.
Sans oublier que François-Xavier Bellamy traîne une petite casserole électorale derrière lui, il s'est incliné à Versailles face à La République En Marche aux législatives de 2017 dans une circonscription pourtant jugée imperdable par la droite.
Rosalie Lafarge. La protection de l'enfance, le gouvernement a fait le constat de sa réforme nécessaire en nommant notamment un secrétaire d'État sur le sujet, Adrien Taquet. Hier, avec la ministre chargée des Affaires sociales, il a présenté les grandes lignes de cette réforme, renforcer la prévention dès la grossesse, mieux repérer les violences et surtout respecter les droits des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Sur tous ces sujets, il y aura concertation avec les acteurs qui se félicitent tout en restant prudents. Lola Fourmi.
Adrien Taquet a bien cerné les enjeux urgents de la protection de l'enfance. Manque de familles d'accueil, respect des droits des enfants placés, souffrance des travailleurs sociaux. Un constat juste, mais il faudra veiller à en tirer des conséquences pour Emmanuelle Ajon, vice-présidente du département de la Gironde, en charge de la protection de l'enfance.
Tout est à voir. Il y a un nom, un titre, c'est déjà beaucoup. Mais à part ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui dit qu'il va faire. Il a fait des grandes lignes, qui sont des grandes lignes nécessaires sur la prise en charge des enfants, mais il n'y a rien de concret. On lui laisse le temps de travailler, je pense que... Mais par contre, c'est un travail urgent, je crois qu'il l'a entendu. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu. Donc pour l'instant, je suis dans une confiance, en attendant de voir, mais très rapidement.
Rapidement, mais avec quels moyens? C'est ce qui inquiète les professionnels du secteur. Plusieurs collectifs, notamment du département du Nord, en lutte depuis plusieurs mois, ne voient pas comment le gouvernement pourrait contraindre les départements à miser davantage sur la protection de l'enfance. Mais pour Fouzi Maté, présidente de Repère 94, une association qui accueille les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, les améliorations peuvent aussi passer par une meilleure organisation.
Il ne faut pas toujours s'arrêter sur l'argent, c'est ce que tout le monde fait, mais il faut aussi s'arrêter sur ce qui est fait à l'heure actuelle et les innovations qu'il peut y avoir et le fait qu'on marche sur la tête. On a en fait des millefeuilles de politiques publiques qui coûtent énormément d'argent. Il y a des choses, on pourrait en fait remettre les choses à plat.
Certaines pistes annoncées comme la création de bourses pour les études supérieures ou la facilitation des adoptions simples par des familles d'accueil peuvent en effet être imposées par l'État. Pour le reste, Adrien Taquet l'a précisé hier, il faudra une réflexion plus globale sur la question de la gouvernance de la protection de l'enfance.
Le géant chinois des télécoms, le groupe Huawei, est dans le collimateur américain. Cette nuit, la justice américaine a inculpé de 13 chefs d'accusation le groupe et sa directrice financière, arrêtée le mois dernier au Canada. Huawei est accusé d'avoir violé des sanctions américaines contre l'Iran, mais aussi de faire de l'espionnage industriel. Et en France aussi, le groupe est dans le collimateur. Il en sera question notamment aujourd'hui à travers la loi Pacte qui arrive dans le Sénat et qui, entre autres amendements, précise dans quelles conditions les opérateurs téléphoniques seront autorisés à moderniser leur réseau ou à installer de nouvelles antennes. Et beaucoup donc voient dans cette proposition une mesure contre Huawei. Catherine Pétillon.
L'objectif, c'est d'assurer la sécurité des réseaux mobiles, explique Bercy. Le texte prévoit de renforcer le régime d'autorisation préalable à toute installation et géré par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. En pratique, davantage d'équipements seraient soumis à son approbation. Avec les véhicules et objets connectés, les données qui circulent sont de plus en plus nombreuses et les réseaux de la cinquième génération de technologie mobile, la 5G, seront très sensibles en termes de sécurité. Sans contester ces enjeux, les opérateurs français, Bouygues, Free, SFR, s'inquiètent déjà des conditions de mise en œuvre. Didier Cazas, le président de la Fédération française des télécoms.
Nous avons absolument besoin, nous opérateurs, qu'il y ait une concurrence effective entre les différents fournisseurs d'équipements. Moins on a de fournisseurs, plus les équipements coûtent cher et moins ils sont compétitifs en termes technologiques. La deuxième chose, c'est que ce nouveau dispositif ne rajoute pas de la complexité administrative à notre métier. Nous avons des engagements de couverture du territoire. Et le troisième sujet, c'est le sujet de la 5G. Nous, on a besoin de comprendre l'agenda du gouvernement, quelles sont ses préoccupations en termes de sécurité.
L'exécutif, comme l'ANSSI, se défend de viser un équipementier en particulier. Reste qu'il n'en existe que trois, les Européens, Ericsson et Nokia, et le Chinois, Huawei. Or, se développe une défiance mondiale envers Huawei, soupçonnée de pouvoir permettre aux renseignements chinois d'espionner les communications des pays qui utiliseraient ces services. Plusieurs pays, comme les États-Unis ou l'Australie, l'ont exclu de leur marché de la 5G. Une discrimination, estime l'ambassadeur chinois auprès de l'Union européenne. Dans un entretien publié hier par le Financial Times, il estime que cela pourrait avoir, je cite, de lourdes conséquences sur la coopération économique et scientifique mondiale.
Catherine Pétillon, le temps de ce mardi, c'est la vigilance orange de météo France sur 41 départements en raison de l'arrivée de la tempête Gabriel qui va traverser le pays d'ouest en est. 29 départements sont en vigilance orange à la neige et au verglas, du nord à l'Aveyron en passant par l'Île-de-France et la Normandie. 9 départements de la côte atlantique sont en vigilance orange au vent violent. Les températures comptées ce matin de 0 à moins 4 degrés, de 1 à 13 degrés cet après-midi.